L'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'EM, l'émission quotidienne de Radio Évasion, en direct à midi et rediffusée à 18h. C'est le l'EM mensuel que nous réalisons avec Eau et Rivière de Bretagne, à distance car l'eau a fait des siennes et s'est transformée en manteau blanc que les conducteurs bretons préfèrent éviter. Arnaud Clugerie, le directeur opérationnel d'Eau et Rivière de Bretagne, est néanmoins en ligne avec nous et aussi son invité du jour, l'association Baie de Douarnenez Environnement, représentée par son président Jean Ascouette. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour, en effet, à distance aujourd'hui.
Alors Jean Ascouette, on va commencer avec vous. Est-ce que vous pouvez nous présenter Baie de Douarnenez Environnement ?
Oui, alors Baie de Douarnenez Environnement est une association créée en 2010 pour préserver l'environnement du bassin versant de la baie de Douarnenez et pour lutter contre les marées vertes, car les marées vertes sont un des sujets cruciaux dans la baie. C'est aussi une association qui est membre adhérente de Eau et Rivière de Bretagne.
Et alors Arnaud, pourquoi avoir invité Baie de Douarnenez ? Comment est-ce que Eau et Rivière perçoit Baie de Douarnenez Environnement ?
C'est vraiment l'exemple type de l'association locale qui s'inscrit dans une complémentarité avec nos actions qui sont souvent d'envergure régionale, voire parfois nationale. Donc là, on est vraiment dans l'excellence de la coopération entre les associations. On le démontrera d'ailleurs dans l'échange qu'on pourra avoir avec Jean, mais ces deux associations qui se connaissent très bien, qui utilisent souvent les mêmes outils, les mêmes moyens d'action, mais à des échelles différentes et qui trouvent évidemment là beaucoup de complémentarité à agir de concert.
Alors Jean Ascouette, vous l'avez dit, malheureusement, les marées vertes, c'est un sujet qui est souvent associé à la baie de Douarnenez. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les différentes raisons qui font que les algues vertes prolifèrent en baie de Douarnenez ?
Alors, c'est souvent mal compris, mais pour qu'il y ait des marées vertes, il faut au moins une condition, c'est qu'il y ait de grandes étendues de sable et donc des plages qui permettent aux algues de se multiplier sur de grandes étendues quand la marée est descendante. Et c'est le cas sur un certain nombre de plages de la baie. On a de très belles plages, on a de la chance dans la baie de Douarnenez, de très très belles plages. Mais effectivement, ça donne lieu aux marées vertes, puisque au moment où la marée est descendante, il y a de très grandes étendues, et du coup, les algues peuvent se multiplier. En particulier quand il y a du soleil. Enfin, après, il y a de nombreuses conditions, évidemment, qui sont supplémentaires, mais c'est surtout le fait qu'on ait ces grandes étendues de plage.
Ouais, c'est la faible profondeur de l'eau, c'est ça ? Ça chauffe
oui,
plus ?
Oui, des grandes étendues de plage avec une relative faible profondeur de l'eau. Voilà.
Enfin, ceci dit, il y a aussi le fait qu'il y a un apport, évidemment, en nutriments pour ces algues vertes.
Alors, ça, c'est... L'apport en nutriments, ça s'appelle un mot savant qui est l'eutrophisation des eaux de côtières. Alors ça a lieu dans beaucoup d'autres endroits sans marée verte. C'est-à-dire que l'eutrophisation, c'est un phénomène mondial, un phénomène qui est lié à un certain nombre de problèmes, en particulier agricoles, et on le retrouve partout sans que ce soit visible. Je dirais que les marées vertes, c'est un tout petit peu à la fois une calamité, mais aussi une chance, parce que ça rend visible une pollution qui existe un peu partout le long du littoral, qui s'appelle eutrophisation, c'est-à-dire trop d'azote dans la mer.
Et cet azote vient essentiellement de l'agriculture locale ?
L'agriculture qui est autour du bassin versant de la baie de Douarnenez est typique de cette agriculture intensive, en particulier énormément d'exploitations, beaucoup d'exploitations avec ce qu'on appelle... l'élevage intensif, et je pense en particulier à l'élevage de porcs autour de la baie. Autour de la baie, il y a 1 million de porcs qui sont produits chaque année. 1 million de porcs produits chaque année. Donc il faut savoir que un animal, ça représente en excréments l'équivalent de 4 ou 5 humains. C'est un tout petit peu comme si autour de la baie, on peut faire la comparaison, on avait... 5 ou 6 millions de personnes, d'humains, sans aucune station d'épuration. Alors c'est immédiatement, les excréments sont comment dire, étendus sur les terres, et c'est le seul traitement pour ces excréments, et ça fait donc dans la mer proche énormément d'azote responsable des marées vertes. Voilà. L'azote, c'est ces fameux nitrates, enfin l'azote ou le nitrate.
Oui,
c'est-à-dire, en fait, c'est un excédent de fertilisation des sols.
D'accord. Arnaud, puisque Haut et Rivière a une vue d'ensemble sur les marées vertes, je suppose, enfin, en tout cas, vue sur la Bretagne, la baie de Douarnenez, c'est une baie qui est particulièrement touchée ou c'est dans la moyenne?
Non, non, particulièrement touchée. Alors, c'est vrai que Jean avait raison de rappeler que les conditions hydromorphologiques sont déterminantes hein, dans la marée verte et que la baie de Douarnenez, comme d'autres baies, hein, le lieu de grève, la baie de Saint-Brieuc, la baie de Concarneau, d'ailleurs, il y en a 8 qui font l'objet d'un plan de lutte. Qui est en cours d'évaluation d'ailleurs en ce moment par la Cour des comptes et qui fait beaucoup de débats, mais la baie de Douarnenez, oui, est très touchée par ce phénomène. Ça occupe énormément l'activité de veille et d'information de baie de Douarnenez, de l'association baie de Douarnenez Environnement, et c'est un problème contre lequel on peine vraiment à obtenir des évolutions dans l'action, c'est-à-dire qu'on a vraiment besoin de changer de braquet sur cette question-là. La question des nitrates, elle est révélée par les marées vertes, mais c'est une question bien plus, enfin, qui a une bien plus grande ampleur que ça, comme le dit Jean.
On va y revenir. Jean Asquette, justement, que fait concrètement l'association Baie de Douarnenez Environnement autour du phénomène des marées vertes?
Alors, je vais être un petit peu provocateur, mais concrètement, je suis là et je parle aux auditeurs de la radio, dont vous êtes la journaliste. Et donc, c'est le premier point, c'est très important pour nous, c'est que concrètement, on informe. Parce que les lieux où il y a des marées vertes et où aucune association n'informe, on en parle très peu. Donc, on informe. Après, je dirais, concrètement, toujours, on s'informe nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on étudie dans le conseil d'administration et puis avec les adhérents les phénomènes, les problèmes environnementaux. On a donc ce côté, nous-mêmes, je dirais, d'expertise qu'on essaye, expertise citoyenne qu'on essaye de mettre en place. Et puis, on alerte. Ça, c'est un troisième point. On alerte les décideurs. On est en permanence en relation avec, par exemple, des structures comme l'établissement public d'aménagement de la baie ou bien avec les communautés de communes ou bien avec l'ensemble des organismes et des structures politiques qui sont supposées gérer les problèmes autour de la baie. Donc ça, c'est un travail d'alerte. Enfin, on organise régulièrement, c'est plus difficile en période de Covid, des événements autour des phénomènes environnementaux liés à la baie. Et donc, 3-4 fois par an, on a soit des débats, soit des films. Et donc, c'est une quatrième façon concrète d'essayer en tout cas de faire en sorte que les choses s'améliorent. Voilà.
Et vous allez parfois en justice ou est-ce que vous laissez ça justement à des associations comme Haut et Rivière?
Là on parle d'algues vertes et pour les algues vertes, c'est Haut et Rivière évidemment qui a les moyens de faire des actions en justice. Nous par contre, de façon concrète, on a d'autres sujets que les algues vertes puisque l'association lutte contre les algues vertes mais a aussi un regard sur l'ensemble des problèmes environnementaux dans la baie, qui est un parc marin, hein, je le rappelle aussi, et donc qui a un très beau littoral, je le rappelle, et donc nous sommes allés en fait une seule fois en justice, c'est contre un projet de lotissement derrière la grande plage de Kervel, et c'était pour faire valoir la loi littorale, et là on a eu gain de cause, c'est-à-dire que tout récemment la Cour d'appel de Nantes nous a donné raison sur ce sujet-là, qui est en fait la préservation du littoral, quoi, c'est-à-dire de l'aspect naturel et paysager de notre littoral.
On va y revenir aussi également. Juste, je voulais terminer, ouais, Arnaud, sur la justice peut-être, est-ce qu'il y a des actions de Haut-Rivière qui sont en rapport avec la baie de Douarnenez qui concernent les marées vertes?
Ah oui, il y en a une qui est importante de notre point de vue, c'est que il y a une directive hein, qui date de 91 qui devrait permettre aux États de l'Union européenne de lutter, de se mobiliser contre les lessivages de nitrates, c'est la directive nitrate, qui fait l'objet d'un programme d'action. On en est au sixième programme d'action et on est en train d'élaborer le septième. Or, dans le sixième programme d'action, aucune mesure réglementaire n'ont porté sur les baies touchées par les marées vertes, ce qu'Haut et Rivière ne, ne pouvait accepter et comprendre. Et donc, il y a un recours devant l'État, hein, au tribunal administratif, qui vise à saisir les juges pour que les juges nous donnent leur avis sur le fait que l'État ne soit pas saisi de cette compétence réglementaire. Donc, c'est quelque chose qui concernera l'ensemble de la Bretagne, cette décision, et qui devrait d'ailleurs intervenir dans le courant du printemps. Ce qui est très intéressant, hein, que cette décision puisse arriver maintenant, parce que comme on élabore le 7e programme, eh ben, il est toujours, de notre point de vue, important de pouvoir accompagner le changement par du réglementaire. C'est l'avis d'Eau et Rivière de tout temps. Il nous semble que les politiques publiques, elles ne fonctionnent que quand on peut mêler le volontarisme, l'incitatif, avec du réglementaire.
Alors, en ce moment, on parle des efforts des agriculteurs à propos de cette question des nitrates, et même on parle carrément d'une réorientation de l'agriculture bretonne vers moins d'élevage intensif, plus de bio, plus de qualité. Qu'est-ce que vous en pensez déjà, Jean Asquette ?
Eh bien, je vais être un petit peu local dans ma réponse, c'est-à-dire que pour l'ensemble du pourtour de la bête d'Ouarnenez, les choses avancent très, très lentement. Il se trouve que c'est difficile du fait que quand le système d'élevage intensif s'installe, il a sa propre logique. C'est un tout petit peu quelque chose qui a du mal à évoluer, pour la raison que les bâtiments sont là, les habitudes sont prises, les champs ont déjà été un tout petit peu orientés vers la production intensive du maïs, etc. Et donc faire marche arrière, c'est très très difficile. Du coup, autour de la baie, on a quelques améliorations, je dirais, du fait qu'on construit un tout petit peu, on détruit énormément de talus, mais on en construit un tout petit peu quand même. On préserve un tout petit peu quelques zones humides, mais c'est à la marge. C'est-à-dire que l'industrie de l'élevage intensif autour de la baie de Douarnenez continue à avancer. Par exemple, tout récemment, et c'est le cas quasiment deux fois par an ou trois fois par an, on a eu à nouveau une autorisation d'extension de porcherie tout près de la plage du Riz. Vous voyez, donc c'est juste pour dire que on est un tout petit peu, je dirais, face à une industrie qui est en place. Et du coup, pour la bête d'Ouarnenez en tout cas, c'est les progrès sont très très lents.
Arnaud, un point de vue plus général de l'association Eau et Rivière sur cette évolution de l'agriculture annoncée en tout cas?
Ouais, ces annonces, est-ce qu'il y a une forme de sincérité dans ces annonces? Sans doute, mais les effets de l'annonce, ils nous suffisent pas. Quand on entend en même temps dire qu'il y a de la place pour tout le monde en agriculture en Bretagne, c'est une autre façon de dire que le plus fort gagne. C'est la loi de la jungle, c'est une vision qui est ultra-libéraliste, parce que non, il n'y a pas de la place pour tout le monde. Il faut soutenir les modèles qui sont des modèles qui sont écologiquement viables. Et donc, il faut pouvoir faire une discrimination positive pour l'agriculture biologique, l'agriculture avec des cahiers des charges stricts pour lutter contre les marées. On jugera aux actes.
Hein. Un autre sujet qui concerne la bête d'Ouarnenez et son environnement, et donc votre association, Jean Asquette, vous en avez un peu parlé, c'est l'application de la loi littorale. Je crois que l'association a été nommée Prix Orange pour avoir remporté une victoire juridique en 2020. Donc c'est sans doute celle dont vous parliez. Le Prix Orange, qui est-ce qui l'a remis déjà?
Alors, c'est un scoop, puisqu'il n'est pas encore remis. Je sais depuis hier que nous sommes Prix Orange pour l'application de la loi littorale. Et je pense que l'annonce officielle va être faite aujourd'hui, demain. Donc, c'est un tout petit peu, je vous fais un tout petit peu la primeur de ce prix.
On est très honorés.
Voilà. Alors, le prix Orange récompense chaque année une association ou une personne ou une organisation qui a œuvré pour la préservation du littoral sur l'ensemble. C'est un prix qui est à l'échelle de l'ensemble de la Bretagne, y compris la Loire-Atlantique. Et donc, pour nous, c'est vraiment un prix qui nous fait très, très plaisir. Et c'est lié au fait que nous avons donc fait une action juridique. C'est assez rare pour une petite association comme nous de le faire. Mais nous avons fait une action juridique qui attaquait le plan local d'urbanisme de la ville de Plonévez-Porzay, car ce plan local prévoyait des lotissements avec vue sur mer au bord de nos plages dont on vient de parler, qui ont les fameuses algues vertes, mais qui ont aussi une grosse pression sur le bord de plage pour des constructions avec vue sur mer. Et donc nous estimons, l'association en tout cas, que défendre l'environnement, c'est aussi défendre un certain patrimoine paysager, un certain patrimoine agricole, d'ailleurs, les terres agricoles derrière la mer, derrière la beauté de notre littoral, on voulait le défendre. Et pour l'instant, le juge en première instance et en appel, les deux juges nous ont donné raison. Et du coup, c'est pour ça que nous sommes donc prix Orange 2020 pour la préservation du littoral. Alors, c'est pas une association, mais c'est le regroupement d'associations, l'Union des associations pour la défense du littoral, qui regroupe des associations de toute la Bretagne et au-delà. Quoi. Voilà.
La loi littorale, je crois qu'elle a récemment évolué, qu'elle elle paraissait plus menacée, mais finalement, elle se défend encore bien. Alors,
faut faire attention parce que le problème des jugements, c'est qu'ils sont toujours dans le temps. Ça fait déjà 4 ans, un peu plus de 4 ans qu'on a, fait cette action en justice. Donc, la justice est quand même dans un temps pas immédiat, quoi, un peu lent. Et du coup, il est possible que la nouvelle loi littorale, entre guillemets, enfin celle qui a été un petit peu rectifiée, puisse être moins favorable aux associations dans le futur. Maintenant, ce qui est certain, c'est qu'il y a une bagarre, très très forte entre les maires des communes qui veulent à tout prix, évidemment, construire avec vue sur mer parce que c'est source à la fois de profit pour les investisseurs, mais aussi de rentrée fiscale pour les communes. Et la pression pour la vue sur mer ne fait que augmenter, évidemment, puisque disons que c'est attractif d'avoir une maison avec vue sur mer. Et du coup, on a gagné, si vous voulez, aujourd'hui le prix Orange et on a gagné le procès fait contre le PLU de Ponneuvet-Porzay. Mais il faut rester extrêmement attentif pour l'avenir parce que les pressions vont continuer à être très, très, très fortes. Voilà.
Arnaud, pour Eaux et Rivières de Bretagne, est-ce que la loi littorale et sa préservation, c'est un sujet aussi ?
Alors, c'est un sujet d'autant plus que je ferai le lien avec la première thématique. Chaque hectare de terre agricole, ou d'espace naturel, mais de terre agricole qui disparaît, dans un cadre où la pression d'épandage est énorme en Bretagne, chaque hectare qui disparaît au profit de l'urbanisation, c'est un hectare d'épandage en moins. C'est-à-dire que ça accroît la pression à l'épandage autour. Donc, il y a vraiment, au-delà des paysages, au-delà du grand cycle de l'eau, c'est essentiel, il y a aussi un lien très fort avec le monde agricole, et Jean a raison de dire que quand on mène ces combats, on mène ce combat pour le patrimoine agricole également, et puis évidemment pour la capacité future à être autonome, et on parle de souveraineté alimentaire. Elle est là, la souveraineté alimentaire. Elle est dans la lutte contre la disparition irréversible des moyens de production futurs.
Et puis c'est de l'artificialisation. De toute façon, quand on construit un lotissement ou de l'habitat, c'est l'artificialisation des terres, donc du ruissellement, donc des pollutions accrues, c'est ça aussi, non ?
Et contrairement aux pollutions agricoles, celles-là sont irréversibles. Donc c'est vraiment un combat. Bête d'Ornenay mérite bien son prix. Bravo.
Mais Jean Lascouette, il n'y a pas des maires quand même dans la Bête d'Ornenay qui commencent à prendre conscience de ces enjeux environnementaux ? Vous ne voyez pas une évolution quand même ?
Bon, peut-être il y a quelques maires, effectivement, je pense, qui sont de plus en plus sensibles à ces problèmes environnementaux. Maintenant, le problème, il est que c'est l'économie qui malheureusement, domine dans ces cas-là. À savoir que, là, on vient de parler de la loi littorale, si vous êtes maire d'une petite commune et que vous pouvez obtenir un lotissement avec vue sur mer, ça change la donne du point de vue des rentrées fiscales. Ça, c'est un exemple. Maintenant, si vous êtes maire d'une commune rurale, vous pouvez difficilement aller contre l'économie de votre territoire. Ici, on est en train de parler d'une industrie de l'élevage. C'est un tout petit peu, je pense, que ce serait difficile au maire de Sochaux d'être contre l'industrie automobile, par exemple. Vous comprenez, c'est un peu ça le problème. Du coup, oui, je pense que comme nous-mêmes, d'ailleurs individuellement, les maires sont de plus en plus conscients des problèmes environnementaux, mais comme nous-mêmes, d'ailleurs, et c'est pour eux très difficile de faire des choses concrètes et d'avancer sur ces plans-là.
Mais voilà. Il y a quand même une contradiction dans le domaine économique, justement. Bon, là, on peut en dire un tout petit mot parce qu'on en a déjà parlé, mais c'est le tourisme. Et finalement, il y a quand même pollution des eaux de baignade, donc ce n'est pas forcément très favorable à l'économie, tout ça.
Non, c'est vrai. Mais par contre, la baie de Douarnenez, en tout cas, n'est pas sinistrée de ce point de vue-là pour la chance qu'elle a d'avoir quand même, je dirais, les deux tiers de ses criques et de ses plages qui ne sont jamais atteintes par les problèmes de marée verte. Et... pour un regard rapide de quelqu'un qui vit toute l'année en ville, le bocage n'est pas non plus comparable, je dirais, à celui de vous donner un exemple de la Beauce, par exemple, où c'est des kilomètres, des milliers de kilomètres de blé sans aucun talus. Ici, c'est pas le cas, quoi. Donc, je dirais qu'on est un peu encore dans un équilibre qui permet au tourisme de ne pas voir ce qui se passe, ou en tout cas de pas le voir de façon clair, et c'est peut-être aussi une chance, c'est que cet équilibre-là, il ne faut pas que ça bascule. Il faut qu'on... Je pense que ça, c'est une des raisons de nos actions et de notre implication avec Eaux et Rivières. C'est qu'on est un peu à un point de bascule et on aimerait bien que ça bascule du bon côté. Voilà.
Il y a une autre point de bascule qui a surgi très récemment, c'est l'alimentation en eau potable. Et les Douarnenistes qui ont découvert, comme les autres habitants du Sud Finistère, après l'accident de l'usine de méthanisation de Châtelain, qui n'était pas autonome en eau.
Oui, alors il n'y a pas qu'une histoire d'autonomie, il y a aussi une histoire de qualité. C'est-à-dire que souvent on confond la qualité de l'eau distribuée au robinet avec les normes, qui est effectivement que si vous êtes en dessous de 50 mg pour les nitrates, et en dessous des normes pesticides, l'eau est bonne, est réputée bonne. Or, il y a des usines de traitement importantes, enfin c'est le cas d'Ordonnée, mais c'est le contraire ailleurs, pour distribuer aux personnes une eau qui est à la limite des normes, je dirais. C'est fort, hein, les taux en nitrate à Ordonnée, c'est quelquefois 40 mg dans l'eau que l'on boit, mais c'est en dessous de la fameuse norme de 50. Donc ça, c'est un point. Par contre, l'eau que l'on a à l'origine de celle qui est distribuée comme potable, elle est dans une, en tout cas sur le Douarnenez, elle est d'une qualité déplorable. Enfin, c'est par exemple, nous on a trois points de captage, trois forages, et tous les trois sont considérés comme prioritaires, ce qui veut dire en termes diplomatiques fortement dégradés pour le facteur nitrate. C'est-à-dire, ils sont tous ces points d'eau où on prend l'eau à Douarnenez, autour de Douarnenez, à Poulan et puis dans les villages autour de Douarnenez, ce sont des points d'eau qui sont beaucoup trop impactés par les nitrates. On retrouve toujours les mêmes problèmes, quoi. Et donc, nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que, à la place de traitements qui coûtent fort cher, on ait des démarches qui sont celles de beaucoup de villes dans d'autres pays ou quelquefois en France, qui consisteraient à faire... ce qu'on fait à Planquette, par exemple, pour l'eau de Planquette, hein, c'est de faire en sorte qu'autour du forage, on ait une centaine d'hectares qui soient préservés pour que l'eau soit de qualité, quoi. Mais une centaine d'hectares, c'est l'équivalent d'une grosse ferme, hein, c'est d'une ferme, on va dire, moyenne, quoi. Mais ça, c'est pas possible parce que chaque mètre carré ici, sur notre territoire, est bataillé pour l'épandage des fameux lisiers, quoi.
Alors, Arnaud Clugerie, comment est-ce que Eaux et Rivières de Bretagne et Baie de Douarnenez Environnement travaillent ensemble? Est-ce qu'il y a des exemples à citer pour terminer l'émission?
Oui, alors je vais quand même apporter un élément de précision, parce que je pense que Jean l'aurait fait, c'est que quand il dit protéger, ça ne veut pas dire ne pas avoir d'agriculture. Mais plutôt réorienter, parce qu'on sait qu'il y a des agricultures qui sont compatibles avec l'équilibre de la fertilisation. Toutes celles qui relèvent du cahier des charges de l'agriculture bio, toutes celles et qui sont pratiquées avec des faibles densités d'animaux, ou toutes celles qui sont sur les systèmes herbagers, etc. Donc ce que souhaite Baie de Douarnenez, et appuyé en ça aussi par Eaux et Rivières, c'est qu'on ait une vraie réflexion sur la protection de nos eaux de captage, et qu'on réfléchisse de façon systémique, c'est-à-dire qu'on arrête de regarder un jour l'eau potable, l'autre jour les algues vertes, et le troisième la santé et les pesticides. C'est la même question qui est posée, et c'est la question de la transition agricole vers l'agroécologie. Alors, Maintenant, je réponds à la question des moyens de collaborer avec Bête Douarnenez. Il y en a tous les jours et de nombreux. Je voudrais peut-être citer celui qui, moi, me tient le plus à cœur. C'est la représentation portée par le président de Bête Douarnenez Environnement, par Jean, au sein du conseil de gestion du parc marin d'Iroise, le parc dont qu'il a évoqué, et où on a un acteur local engagé qui fait honore une mission de représentation des associations de protection de la nature et qui est une voilà qui une façon de coopérer du local au régional de façon enfin assez de mon point de vue très pertinente quoi.
Très bien. Bon, ben on va terminer sur cette note positive et on va vous remercier tous les deux. On retrouvera Eau et Rivières de Bretagne sur Radio Évasion, mais ce sera dans un mois, le 18 mars. Merci, à bientôt.
Merci beaucoup.